Bienvenue à tous pour une nouvelle interview. On a eu l'honneur de recevoir Mathieu Thomas, parabadiste français de haut niveau lors des championnats de France de parabadminton 2023 qui se sont déroulés mi-janvier. Vous l'aurez deviné, si Ewan ne fait pas l'introduction, c'est parce que j'ai eu la chance de me rendre sur place. Mais ne vous inquiétez pas, mon acolyte préféré sera de retour dès le prochain épisode. On parle peu de parabadminton dans ce podcast et c'est pour cette raison qu'on a décidé de le faire avec Mathieu Thomas. On parle notamment de sa vie de sportif de haut niveau, de son échec des Jeux de Tokyo, de Paris 2024, de son changement de structure, mais aussi de son engagement en dehors des terrains. Je vous laisse tout de suite avec ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Salut Mathieu,
salut.
Merci de nous accorder un peu de temps entre quelques matchs ici au championnat de France de parabadminton à Saint-Aurens. Je te laisse te présenter pour commencer.
D'accord, bah, alors, je m'appelle Mathieu Thomas, donc du coup je suis sportif de niveau en parabadminton. Et en niveau classement, bah, numéro 1 français dans ma catégorie, donc SL3. Je suis aujourd'hui 7e mondial en simple, numéro 1 mondial en double avec Guillaume Galli. Donc on a appris ça il n'y a pas si longtemps, donc c'est cool d'être numéro 1 mondial.
Je me doute.
Et puis sinon, dans ma vie, je suis aussi ingénieur. J'ai mis un peu ça de côté pour le badminton maintenant. Du coup, je suis plutôt conférencier à côté du badminton en ce moment. Et je suis aussi papa de deux enfants, des jumeaux, Soa et Mila.
C'est bien, tu m'as amené genre plein de questions qu'on voulait te poser. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est la catégorie SL3 et la catégorie SL3-SL4 au championnat de France en double homme? Parce que si je dis pas de bêtises, les deux catégories sont regroupées.
C'est ça. Alors en France et aussi à l'international.
Okay.
Donc la catégorie SL3, c'est... C'est en fait les personnes qui ont un handicap au membre inférieur. Et la particularité, c'est qu'on joue sur un demi-terrain en simple. En double, on a exactement les mêmes règles que les valides. Et voilà la différence. Après, la catégorie se joue au niveau de la déficience, vraiment du sous-membre inférieur. Il y a la catégorie SL4 où ils jouent sur un grand terrain, mais aussi avec un handicap plus léger, qui permet des déplacements latéraux, que normalement les SL3 c'est vraiment compliqué. On va dire que tous les déplacements latéraux, on va prendre tous les volants dans le retard.
Ok, c'est plutôt des déplacements avant-arrière.
Avant-arrière sont plus faciles pour nous, tout ce qui est latéraux c'est très compliqué.
On est ici au championnat de France parabadminton à Saint-Aurens. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises? Tu joues sur trois tableaux, est-ce que tu vises trois médailles d'or?
Alors, je visais au moins déjà deux médailles d'or en simple et en double. Le mixte, j'ai un nouveau partenariat avec Maud Lefort, qui n'est pas venue en France pour différentes raisons qu'elle ne pouvait pas venir. Elle est encore jeune et elle a ses études. Donc voilà, c'était compliqué pour elle de venir dès maintenant au championnat de France. Et donc du coup, un nouveau partenariat qui s'est fait sur le pouce. Avec Aurélie Bigot, et là on est assez content parce que du coup on va jouer pour une médaille.
Oui, ça se passe pas trop mal jusque là.
C'est cool aussi, voilà. Donc après là, on va dire que le mix ça va être du bonus tous les deux et on prend plaisir à jouer, c'est cool.
Tu nous disais que tu t'entraînes, t'es un sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu t'entraînes maintenant?
Alors j'ai deux endroits où je m'entraîne. J'ai un peu changé après Tokyo, où il fallait remettre en question certaines choses.
C'est une de mes autres questions, mais tu les anticipes.
Bon, on en parlera juste après. Donc, je m'entraîne à deux endroits. Je m'entraîne à Issy-les-Moulineaux, au club IMBC 92, avec comme coach Florent Rancio. Et ensuite, je m'entraîne toujours au Crêpes d'Île-de-France, avec tout le staff, avec les polistes du Pôle Espoir.
Y a un an, si je dis pas de bêtises, t'as manqué la qualification olympique pour une place. T'étais 7e au lieu de, enfin, alors que les 6 premiers étaient qualifiés. Comment t'as vécu
ça,
ce moment?
Je l'ai très mal vécu. On a passé 5 ans à préparer ça. C'était vraiment très compliqué dans le sens où avant Covid, j'étais qualifié, il me restait un tournoi. Et voilà, ça a été un peu les montagnes russes pendant toute cette période Covid. À un moment, on dit bah la qualif est terminée, donc qualifié, sixième. En fait, ils sélectionnaient que les six meilleurs mondiaux. Je suis arrivé septième après le match de qualif. Donc ça a eu près. Donc après Covid, voilà, c'était assez dur. Et bah il faut rebondir. On va dire, c'est pas la première fois que je rebondis, mais celle-là, elle était quand même assez dure. J'avais deux choix en fait, c'est comment vivre les jeux. Soit je regarde pas du tout parce que c'était dur. J'étais content à la fois pour mes copains qui sont qualifiés, ils le méritent et ça a été voilà, je sais ce que c'est une qualif, c'est long et éprouvant, donc j'étais content pour eux et en même temps bah dégoûté de pas y être.
Oui, tu sais ce qu'ils ont vécu aussi et...
Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y avait cette émotion qui était vraiment partagée entre aussi de la jalousie, aussi ce sentiment de satisfaction pour eux, de jalousie, d'injustice aussi peut-être, de me dire j'ai pas eu de chance, mais en même temps cette chance c'était à moi de la provoquer à certains moments et j'ai pas réussi à la concrétiser. Et donc du coup, bah, comment j'ai rebondi, je pense qu'au moment où j'ai appris ça, c'était la fin de mes vacances, c'était en juillet, donc pour les Jeux en septembre. Je rentrais tout de suite de vacances et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai demandé à Florent, bah, on se voit, je veux faire une muscu et ainsi de suite. Et puis bah, on s'est remis au charbon, il s'est dit bon bah, maintenant c'est Paris. Là, Tokyo n'était pas encore fait. Ah, j'étais pas encore passé, on était en plein mois d'août et du coup bah, on s'est remotivé en se disant bah vas-y, la qualif à Paris, on commence maintenant.
Et Florent Rienchaud, je précise pour nos auditeurs.
Ouais, Florent Rienchaud, ouais. Donc du coup ouais, voilà, il m'a été d'une grande aide à ce moment-là et on a travaillé en fait, on est reparti et je suis reparti parce que je suis reparti tout de suite sur un autre projet fort, Paris 2024, et voilà comment j'ai rebondi assez vite au final un jour.
C'est la raison pour laquelle tu as changé de structure, enfin pas, tu t'es pas dit faut repartir de zéro, mais changer peut-être ton mode d'entraînement.
Il y a plusieurs choses, en fait j'ai analysé, j'ai pris ce mois d'analyse, je suis allé jusqu'à presque 2-3 mois, parce que je me suis même posé la question, en fait je voulais faire Paris, donc l'objectif était Paris, et à un moment la vraie question c'était de dire est-ce que j'ai choisi le bon sport. Donc j'ai regardé les jeux différemment aussi, je me suis dit est-ce que le badminton c'est fait pour moi ? Est-ce que c'est là-dedans où je vais aller faire mon rêve de jeu, comme je le dis. Donc j'ai regardé tous les sports, para, et je me suis dit dans quelle discipline il y a moyen d'aller à Paris. Il y a le badminton, et il y a deux autres sports qui sont sortis du lot, le volley assis et l'aviron. Et j'ai testé trois sports différents. Voilà, vu ma taille, je me dis le volley assis c'était intéressant et l'aviron pareil. Quand j'ai vu la médaille d'or de couple aux Jeux Olympiques, ils font un 92 comme moi, ils faisaient aussi 90 kilos et j'avais pas cette image de l'aviron comme ça.
Oui, donc physiquement c'était des sports qui te correspondaient.
Physiquement c'était voilà qui se correspondaient, donc je me suis renseigné, j'ai fait deux stages, un stage avec l'équipe de France en para-volley, okay. À volley assis et un avec le para-aviron. J'ai tout de suite dit que mes ambitions c'était d'aller au jeu. J'ai tout de suite dit que je faisais du badminton et qu'aujourd'hui soit j'arrive à faire les deux, soit j'arrive à faire, mais il fallait choisir déjà entre deux, sur les trois c'était soit deux soit un, et le volley assis c'était pas pour moi. En tout cas j'ai rencontré des gens énormes et maintenant c'est même des copains et j'espère qu'ils vont aller au jeu. Bah, en tout cas ils vont aller au jeu parce que c'est une équipe qualificative vu que c'est en France, maintenant j'espère qu'ils vont faire de gros tournois et ils vont faire de bons résultats après, mais c'était pas pour moi dans le sens où l'équipe elle est en train de se construire et moi c'était maintenant que je voulais faire quelque chose et j'ai aussi envie de faire une médaille, je veux pas aller qu'à Paris. Et je pense que vu mon niveau, je n'avais pas les prétentions d'aller chercher une médaille en volley tout de suite, donc je me suis dit stop.
Et du coup, tu m'as parlé d'une médaille à Paris. T'as glané ta deuxième médaille mondiale. Hein,
Oui, en double homme. Malheureusement, c'est en double homme et pas en simple.
Oui, voilà, ça amène ma question. Du coup, Paris, médaille en simple.
Paris en simple, c'est le projet numéro 1.
Okay.
Le projet numéro 2 mixte avec Maud, parce que c'est aussi qualificatif. Donc, une très bonne paire française qu'on connaît tous, Lucas et Faustine. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner cette paire avec Maud. Et puis, c'est cool parce qu'il y a aussi même une deuxième paire, Coraline et Meryl, qui sont aussi très bons. Et encore une autre paire, Matisse et Elena Higg. Donc, ça fait 4 paires françaises. Je pense que tous les quatre, si on se tire vraiment la bourre, ça peut faire peut-être deux paires à Paris et j'espère même de médailles argent et or en mixte. Je pense que si la Fédé entend ça, je pense que c'est un appel. Faites tout pour qu'on ait ces deux médailles à Paris.
Mais la Fédé l'entendra, j'en doute pas, et j'espère qu'il y aura deux médailles à Paris.
En tout cas en mixte, après il y en aura d'autres dans les autres tableaux.
Il y en aura sûrement d'autres dans les autres tableaux, oui. Est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin? Peut-être dire qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux parce que t'es très actif.
Ouais.
Peut-être dire que t'es conférencier.
Ouais.
Parce que c'est vrai, y a quasiment aucun badiste ou parabadiste français qui fait autant que toi sur les réseaux.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est d'avoir été ingénieur, ce qui m'a amené aussi d'être entrepreneur. Et au final, j'ai cette âme d'entrepreneur, donc c'est plus fort que moi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de stimuler aussi mon cerveau et tout ce que je fais sur le terrain, bah, j'ai aussi besoin d'être productif pendant mes pauses.
Oui, tu l'as pas laissé de côté, alors que sportif de haut niveau, bah, c'est déjà une vie en fait.
C'est une vie, mais je pense que c'est aussi mon équilibre. Moi, j'ai cet équilibre aussi d'avoir une activité professionnelle et au final, c'est aussi comme ça que je me suis structuré pour Paris. Je vois grand et donc du coup, il faut une grosse équipe pour ça. Et la com en fait partie, il faut des sponsors, il faut des partenaires. Donc en fait, je l'ai tout construit pour essayer de se professionnaliser parce qu'on ne gagne pas d'argent au parabadminton. En valide, il y a au moins des prize money, mais nous, on n'en a pas. Donc il fallait trouver un moyen de financer tout ça. Et c'est moi, c'est ma solution. Ma solution, c'est j'utilise mon arme d'entrepreneur pour essayer de créer des choses. Et puis aussi, mon histoire fait que j'ai des choses à raconter. J'ai vécu des choses que je peux transmettre. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, bah, de grâce aussi à mon statut de sportif de haut niveau, aller en entreprise, parler du handicap, parler d'une chose qui m'est arrivée, c'est-à-dire de cacher l'handicap pendant 13 ans, de ne pas l'accepter. Et grâce au sport, je l'accepte aussi maintenant. Donc voilà, c'est ça. C'est, aujourd'hui, j'ai mis un certain temps de comprendre les choses. L'objectif maintenant, c'est de transmettre les choses aux entreprises, aux écoles.
Ce que tu appelles l'handicap invisible.
Que j'appelle l'handicap invisible et qui représente 80% des personnes en situation de handicap.
Oui, je ne sais pas si on peut le citer, mais ton ancien sponsor, si je ne dis pas de bêtises, c'était ton sponsor, mais, mm-hmm. mais tu travaillais aussi pour eux.
Oui, je travaillais. On peut les citer, Ippon. Au final, le partenariat s'est arrêté, mais aujourd'hui, je travaille avec eux en tant que consultant.
Okay.
Et Stéphane Nomis m'a accueilli dans son entreprise, ancien sportif de niveau, qui est aujourd'hui président de la Fédé de judo aussi, donc un entrepreneur. Il était sportif de niveau, entrepreneur. Donc
vous vous êtes compris.
Ça, c'est un match, on se comprend. Et lui, il croit aussi en une chose, c'est que les sportifs de haut niveau, derrière, il y a une vraie reconversion, il y a une vraie qualité d'un sportif de haut niveau. Et tout ce qu'il a vécu en tant que sportif de haut niveau, on peut l'appliquer en entreprise. Et lui, il cherche à faire cette passerelle-là. Donc, il recrute un maximum de sportifs de haut niveau. Il essaie de les aider aussi à cette reconversion professionnelle. Mais moi, j'ai fait cette reconversion dans l'autre sens. Je suis parti d'ingénieur à ça et c'était pas l'objectif dans son accompagnement. Donc, du coup, on s'est arrêté. Mais voilà, c'est grâce à lui aussi que j'en suis là.
Merci beaucoup pour ce moment, en tout cas. C'était très court, mais très cool.
Ouais, merci.
On te souhaite une bonne continuation pour ces championnats de France, mais aussi pour la suite.
Bah, merci beaucoup.
Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir, que ça a été intéressant pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'a beaucoup été, parce que j'ai beaucoup appris de Mathieu Thomas, même si c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux. On a toujours beaucoup à apprendre, et même si ce format était très court, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, vous nous direz en commentaire, mais si c'est un format que vous aimeriez revoir avec Mathieu Thomas ou d'autres parabadistes en version un peu plus longue, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez d'autres noms également de joueurs ou autres que vous souhaitez qu'on interviewe, vous pouvez aussi nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser des notes sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez, peu importe laquelle. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous appréciez le contenu qu'on vous propose. Et en attendant, comme dirait Ewan, mon acolyte préféré, portez-vous bien et rendez-vous lundi.
绽放我们激情的节奏，把 妈说不抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的手？